En fait, c'est un spectacle qui s'appelle un spectacle. Une lecture, concert, qui s'appelle Tu es moi, je suis toi, femme mystique d'Orient et d'Occident. Et en fait, l'idée, c'est que c'est un. Oui, on peut dire un spectacle, mais que c'est un spectacle que je n'ai fait que dans des chapelles. En général, je suis accompagnée par mon ami, le compositeur et contrebassiste Renaud Garcia-Fons, qui fait la musique spécialement pour ses montages poétiques. Nous avons fait plusieurs spectacles ensemble, Cantique des Cantiques, justement, Les Femmes Mystiques, un spectacle sur Rumi. Et c'est vrai que j'hésite à employer le mot spectacle parce que ce n'est pas quelque chose à prendre de l'extérieur, ce sont vraiment des textes que nous essayons de donner à entendre. Et c'est pour ça aussi que nous ne faisons ça que dans des espaces comme celui-ci, c'est-à-dire des espaces qui soient aussi des espaces de recueillement. Donc c'est plus un temps de recueillement qu'un spectacle. Voilà. Alors pourquoi ces femmes mystiques d'Orient et d'Occident? Cette lecture, en fait, je la redonnerai la semaine prochaine pour ceux qui habitent près de Perpignan. J'en profite pour faire de la publicité. Mais dans le cadre du Festival des musiques sacrées de Perpignan, donc mercredi 9 avril, donc je referai ça avec le contrebassiste. Aujourd'hui, ce soir, je suis extrêmement heureuse, comme je m'appelle Leïli, d'être accompagnée par Leïla. Que j'ai écouté tout à l'heure, donc elle nous parlait de la musique de Beethoven, et plutôt que d'utiliser une musique qui n'aurait pas été vivante, c'est-à-dire un CD, comme il y a une personne qui est habitée par la musique qu'elle fait, je trouvais ça, comme j'ai pris ça comme un vrai cadeau qu'elle accepte en fait de m'accompagner. Donc vraiment un grand merci à Leïla. Alors, le choix aussi d'avoir pris cet ensemble de textes de femmes mystiques et d'Orient et d'Occident pour cet événement ici, c'est que il me semble que je vais dire quelque chose qui ne va pas beaucoup plaire aux messieurs, mais c'est pas grave, puisqu'ils sont minoritaires. C'est que j'ai l'impression que souvent, pour ce qui concerne en tout cas l'intimité avec le divin, les femmes ont une prédisposition particulière du fait qu'elles sont femmes. Ça ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas faire le même chemin. Au contraire, les hommes qui ont fait ce chemin, c'est-à-dire qu'ils ont accédé à leur féminité. Ce n'est pas un hasard si Saint Jean de la Croix parle de lui-même au féminin et que dans ses poèmes, il devient l'épouse. Rumi dira la même chose. Il dit qu'il est une vierge fécondée par le divin. Donc, ce n'est pas une question d'être une femme ou un homme, c'est une question que le féminin est particulièrement disposé à l'abandon et à la réception de l'autre qui va venir. Alors, les poèmes de ce soir sont des poèmes qui ont été composés par des femmes que les siècles, la distance géographique, les différences culturelles, religieuses semblent séparer. Et pourtant, vous allez l'entendre, je l'espère, elles parlent le même langage, c'est-à-dire le langage de l'amour spirituel. L'essentiel, donc, rapproche ces grandes spirituelles qui ont consacré leur vie à Dieu, à la fois par la méditation et par l'action. Dans leurs poèmes, elles témoignent de ce qu'elles ont vécu, c'est-à-dire un arrachement à soi pour laisser toute la place à la présence de ce grand autre qu'elles appellent toutes, sans exception, leur bien-aimé. Elles ont traversé le monde, habitées et inspirées par cet aimé tant désiré, et toute leur vie, elles n'ont eu de cesse de le chercher et de forger leur âme pour devenir aptes à le recevoir. Leur vie, aussi bien que leurs œuvres en témoignent, souvent de santé fragile, régulièrement en butte au fanatisme de leur temps et l'incompréhension des docteurs de la loi, ces femmes ont enseigné la doctrine du pur amour, parfois au péril de leur vie. On a parlé ce matin de Marguerite Porrette, qui a été brûlée en place de Grève et dont deux poèmes seront lus ce soir. Elle a été brûlée pour avoir écrit Le miroir des âmes simples, dans lequel elles parlent précisément de cette démarche d'amour. Elles ont guidé les autres sur la voie du perfectionnement de l'âme et elles ont laissé en fait des textes qui continuent à nourrir nos âmes par-delà l'espace et le temps. Et leur poésie en fait est une manière qu'elles ont de donner à voir leur intimité avec le divin, dont elles ont senti le goût. Et c'est de ça que rend témoignage leur texte. Je ne vous dirai pas au fur et à mesure qui a écrit quel texte. Et c'est fait exprès. Parce qu'à la fin, vous allez voir, en fait, on ne sait plus qui a écrit quel texte. Parce que c'est une seule et même voix qui se déploie. Mais je vous dis quand même tout de suite le nom, pour que leur nom soit prononcé, de toutes les femmes dont je lirai des textes ce soir. Dans l'ordre chronologique, Rabia al-Adawiya, une mystique soufie musulmane donc du 8e siècle, Hadewige d'Anvers, mystique rhénane qui a vécu vers 1240, Marguerite Porrette, qui est morte en 1310, qui était aussi béguine, princesse Lala, princesse indienne qui était de l'école shivaïte et qui a vécu au XIVe siècle, on ne connaît pas exactement ses dates, Sainte Thérèse d'Avila, dois-je dire que c'est une mystique catholique, qui a vécu au XVIe siècle, Malekjan Nemati, dont je vous ai parlé tout à l'heure, une mystique kurdo-persane du XXe siècle, Simone Veil, qui est née en 1909, et Zelda, que je crois personne ne connaît, et qui est une mystique de la tradition hassidique qui est morte en 1984. Et en guise d'introduction, juste quelques lignes justement de Simone Veil, parce que c'est la seule que j'ai voulu faire entendre et qui n'a pas écrit de poème. Et pourtant, quand elle écrit, sa prose devient poème. Dieu est la pure beauté, c'est la chose incompréhensible. Car la beauté est sensible par essence, et parler d'une beauté non sensible, cela paraît un abus de langage à quiconque a dans l'esprit quelque exigence de rigueur. Et avec raison. Mais la beauté est toujours un miracle. Il y a un miracle au second degré quand une âme reçoit une impression de beauté non sensible, s'il s'agit non d'une abstraction, mais d'une impression réelle et directe comme celle que cause un chant au moment où elle se fait entendre. Tout se passe comme si, par l'effet d'une ferveur miraculeuse, il était devenu manifeste à la sensibilité elle-même que le silence n'est pas absence de son, mais une chose infiniment plus réelle que les sons. Et le siège d'une harmonie plus parfaite que la plus belle dont les sons combinés soient susceptibles. Encore y a-t-il des degrés dans le silence. Il y a un silence dont la beauté de l'univers qui est comme un bruit par rapport au silence de Dieu. Dieu est le véritable prochain. Le terme de personne ne s'applique avec propriété qu'à Dieu et aussi le terme d'impersonnel. Dieu est celui qui se penche sur nous, nous malheureux, réduits à n'être qu'un peu de chair inerte et saignante. Mais en même temps, il est en quelque sorte aussi ce malheureux qui nous apparaît seulement sous l'aspect d'un corps inanimé, d'où il semble que toute pensée soit absente, ce malheureux dont nul ne connaît ni le rang, ni le nom. Je fus jadis recluse en esclavage d'une prison, quand désir m'enferma en vouloir d'affection. Là me trouva la lumière et l'ardeur du divin amour. Elle tua aussitôt mon désir, mon vouloir et mon affection, qui m'empêchait d'être prise au cœur du divin amour. Et la lumière divine m'a sortie de prison. Sa noblesse m'a unie au divin vouloir d'amour, là où la Trinité me donne les délices de son amour. Ce don, nul homme ne le connaît. Aussi longtemps qu'il sert l'une ou l'autre vertu, qu'il sent par la nature ou qu'il s'exerce en raison. Vérité le déclare à mon cœur, je suis aimée d'un seul. Elle dit que c'est sans retour qu'il m'a donné son amour. Ce don tue ma pensée, tue ma pensée des délices de son amour, délices qui m'exaltent et me transforment par union en la joie éternelle d'être au divin amour. Divin amour me dit qu'il est entré en moi, si bien qu'il peut tout ce qu'il veut. La force qu'il m'a donnée, elle est du bien-aimé. À lui, je suis vouée et il veut que je l'aime. Si bien que je l'aimerai. J'ai dit, je l'aimerai. Je mens, je n'y suis pas. Il est seul à m'aimer. Il est, je ne suis pas. Et plus rien ne m'importe, sinon tout ce qu'il veut, sinon tout ce qu'il vaut. Il est. En plénitude. Il est en plénitude et j'en reçois plénitude. C'est là le divin cœur de nos amours loyales. Jusqu'à quand, Rossignol, rester au jardin, dit ? Sur une branche morte, poser ton âme ainsi. La neige et les frimas ont fermé tout chemin. Tu vas mourir de froid. Retourne à ta patrie. Ne vois-tu pas la neige posée dans le jardin? Quelle fleur espères-tu? Que fais-tu là, assis? Cherche donc la patrie de l'éternel printemps, des bourgeons et des fleurs à foison, ta patrie. Ne cherche pas l'habit des voleurs de fortune, ne blesse pas les cœurs qui saignent d'être ici. Cesse donc d'accabler les fous épris d'amour, ne brûle pas les ailes des papillons de nuit. Ne revêt pas la robe des hommes au cœur de pierre, évite la faiblesse de faire souffrir les faibles. Ivresse de l'amour éperdue du divin, ivresse de mon âme au rossignol épris. Comme le rossignol, amoureux de la rose, posé sur une branche où le bouton fleurit. Née différente, dans quelle teinture m'a-t-on plongée? Les vents contraires me pénètrent, les roches acérées me déchirent, tous mes champs portent la même brûlure. Le cœur béant, sur quel banc de sable ma barque va-t-elle échouer? De quelle contrée suis-je venu? Par quelle route? Où aller? Par quel chemin? Qui peut me guider sur la voie de la vérité? Nulle substance dans mon souffle vide, j'ai toujours su que mon être et le tien ne faisaient qu'un. Tu es moi, je suis toi. mais il me reste encore à connaître la fusion de ton être au mien. Qui es-tu? Et qui suis-je? Cette union intime, je ne l'ai pas encore vécue. Je vis, mais sans vivre en moi-même. Je vis, mais avec plus de son. Je vis, mais sans vivre en moi-même. J'attends une vie si haute que je meurs. De ne pas mourir. Je vis déjà hors de moi, puisque je me meurs d'aimer, car je vis dans le Seigneur qui m'a voulu pour lui. Quand je lui donnais mon cœur, il mit en lui cette inscription : je meurs de ne pas mourir. Cette toute divine prison de l'amour avec qui je vis a fait de Dieu mon captif et rendu libre mon cœur. Mais cela me fait tant pâtir de voir Dieu mon prisonnier que je meurs de ne pas mourir. Là, que longue est cette vie et comme ils sont durs, ces exils, cette prison, ces fers aussi dans lesquels l'âme est enfermée. L'espoir seulement d'en sortir me cause douleur si cruelle que je meurs de ne pas mourir. Hélas, que la vie est amère quand elle n'y jouit pas du Seigneur, et si l'amour lui-même est doux point ne l'est, la longue espérance, ôte-moi, mon Dieu, cette charge qui m'est plus lourde que l'acier, car je meurs de ne pas mourir. Vois comme l'amour est fort, ô vie. Ne me sois pas à charge, vois, il ne me reste plus qu'à te perdre pour te gagner. Que la douce mort vienne, qu'il vienne vite ce trépas, car je meurs de ne pas mourir. Cette autre vie qui est de là-haut est bien la véritable. Jusqu'à ce que meure cette vie d'en bas, vivant, point on en jouit, ô mort, ne te dérobe pas. Je vis en mourant, plutôt, car je meurs, de ne pas mourir. Ô vie, que puis-je donner à mon Dieu qui vit en moi, si ce n'est de te perdre, toi, pour mériter de te gagner, je désire, en mourant, t'atteindre, puisque j'aime tant mon aimé, j'aime tant mon aimé, que je meurs de ne pas mourir. Ô mon cœur trop indigne, papillon de mon âme, deviens rien, que sa flamme te réduise à néant. Regarde l'éphémère qui vole vers la lumière, épousant la douleur. N'as-tu point son courage? Amant de la beauté, il n'a rien, donne tout. Vois comme le feu l'embrasse et ses ailes s'embrasent. Et lui, le dieu d'amour, est-il moins qu'une flamme? Ta vie a tant de poids qu'elle ne vaille ton âme. Apprends de l'éphémère ce que c'est que d'aimer. Aime à en mourir. Aime et deviens néant. Lentement, doucement. Quand tu auras brûlé, alors finalement tu seras libéré. Mais pour le papillon, brûler n'est pas s'unir, c'est se perfectionner et mourir pour mûrir. Mais toi, mon cœur indigne, tu as peur, tu recules. La souffrance t'effraie, la douleur te répugne. Pour l'amour, j'entends n'avoir que noble pensée d'amour. Lui dont la force infinie dilate mon essence, au point que je me livre tout à sa noble renaissance. Mais veux-je prendre libre délice, il me jette en sa prison. À peine pensais-je reposer dans la grâce, nouvelle tempête, nouveau dessein. Quel étrange remède. Il semble, oui, il semble que plus il m'aime et plus il m'accable. Ces grandes merveilles à l'entendement qu'amour ainsi prenne et donne et ces consolations que l'on accueille avec crainte et tremblement. Consolation et disgrâce tout ensemble. Telle est d'amour l'étrange saveur. Quel discours lui fait justice? Poème qui défie toute mélodie, cette heure vers laquelle je languis me garde le prix de mon amour. Désirer, errer, attendre, longtemps. Attendre ce printemps qui est l'amour même, tout cela nous fait mépriser la foule étrangère, perdre beaucoup, gagner infiniment. Fierté d'amour me veut si ferme en lui, qu'enfin de lui je reçoive nature nouvelle et dépasse le sens, oui, mélodie qui défie tout poème. Ce chant qui dépasse toute parole, je parle du puissant amour. Ne saurait se révéler au cœur froid, ni à ceux qui ont peu souffert d'aimer. Que serait-il de ce royaume? Il n'est donné qu'aux plus fiers, aux plus hardis, à ceux qui sont nourris au lait d'amour. L'invincible amour déroute l'esprit. Il est proche de qui s'égare et loin de qui veut le saisir. Sa paix ne laisse point de paix. Ah, paix du pur amour. Seul, qui fait sienne sa nature, boira ce lait consolateur. C'est par lui-même que l'on gagne l'amour, par lui-même, par lui-même. Je me suis livrée et donnée, et tout ainsi se fit l'échange que mon bien-aimé est à moi, et je suis à mon bien-aimé. Le doux chasseur tira sur moi et me laissa tout épuisée. Alors dans les bras de l'amour tomba mon âme, y demeura, et reprenant nouvelle vie, de telle sorte se fit l'échange que mon bien-aimé est à moi et je suis à mon bien-aimé. Il me lança donc une flèche imprégnée du venin d'amour. Et mon âme ne fit plus qu'un avec son Créateur. Lors, je ne désire autre amour, puisqu'à mon Dieu je suis livrée, que mon bien-aimé est à moi, et je suis à mon bien-aimé. Ma coupe, mon vin, mon compagnon sont trois, et moi que remplit l'amour, je suis la quatrième Rabia. Si de mes yeux je ne vois que pour lui. Si regardé je suis vu avec lui. Ô toi qui me blâmes, sa beauté, oui, je l'aime. Et par Dieu, mes oreilles n'ont que faire de ton blâme. Que de nuits délirantes j'ai passé. Feu, tourment et mes yeux se sont faits source à force de larmes. Aucune larme n'a pu remonter à la source. Mon union avec lui n'a pas duré. Blessé, meurtri. Mon œil plus jamais ne s'apaise, plus rien jamais ne l'apaise. Pensez ici, plus rien ne vaut, ni œuvrer. Ni parler. Amour me tire si haut par ses divins regards que je n'ai plus nul désir. Penser ne vaut ici plus rien, ni œuvrer, ni parler. Amour m'a fait en sa noblesse trouver les vers de ma chanson. Elle chante la pure divinité dont raison ne saurait parler. Et mon unique bien-aimé, il n'a point de mère. Il est issu de Dieu le Père et aussi de Dieu le Fils. Son nom, le Saint-Esprit. Mon cœur lui est tellement uni qu'il me fait vivre dans la joie. Le bien-aimé en ce qu'il m'aime me donne ici sa nourriture, me donne ici ma nourriture. Je ne veux rien lui demander. Ce serait trop grand de malice. Je dois plutôt toute me fier en cet amour de mon amant, ô bien-aimé qui m'a possédé en ton amour, pour me donner ton grand trésor, qui est de te donner toi-même, toi, la divine bonté. Et si le cœur ne peut le dire, un pur rien vouloir le devine. Lui qui si haut m'a fait monter par une union de cœur à cœur, que jamais je ne dois révéler.
Thank you.
de deux amours, je t'aime. D'un amour de passion et aussi d'un amour de haut mérite. Dont tu es digne. Par l'amour de passion, j'ai voulu, par l'amour de passion, j'ai perdu tout souvenir, souvenir de n'importe quel aimé qui ne serait pas toi. Par l'amour de mérite qui seul de toi est digne, que tombent les voiles et qu'enfin je te vois. Or, pour ces deux amours, je n'attends nulle louange, pour l'un et l'autre, que toute la louange aille à toi. J'ai fleuri dans une maison de pierre, sans poids ni fond, comme une fiction étrange, comme un cyclamène sur un rocher. Jérusalem capta mon âme libre et je me suis noyée dans sa lumière. J'ai oublié jusqu'à mon nom. Chaque rose est une île de la paix promise, de la paix éternelle. Il semble que la lumière de la rose est si proche est son parfum, si proche est le silence des feuilles. Si proche est cette île. Prends donc une barque et traverse la mer de feu. Ô beauté qui surpassait toutes les beautés, sans blesser vous faites souffrir et sans douleur, vous défaites l'amour des créatures. Ô nœud qui unissez ainsi deux choses tant inégales, ne sait pourquoi vous déliez, puisque lier vous donnez force de tenir les maux pour des biens. Vous joignez qui n'a pas d'être à l'être qui n'a pas de fin. Vous achevez, mais sans finir, sans avoir qui aimer, vous aimez. Vous magnifiez votre néant. Mon allégresse, mon désiré, mon appui, mon compagnon, ma provende, mon pôle. Tu es de mon cœur le souffle, tu es ma toute espérance, oh, mon intime, le désir que j'ai de toi et mon viatique. Sans toi, qui es ma mienne vie, sans toi, qui es ma garantie, je ne me serais jamais hasardée dans l'immensité des terres. Tant de grâces à moi proposées, que d'offrandes, que d'avantages, que de présents tu m'as donné. Ton amour, désormais, mon destin, ma fortune, ma fête, pour l'œil de mon cœur altéré, s'est révélé splendeur. Je n'ai d'autre que toi, je n'ai d'autre que de toi, que qui du désert fait fleur, ô fête en moi fermement établie. tant que vivante je serai, de toi je ne m'éloignerai. Tu es de ma nuit le seul maître au sein de mon intimité. Et s'il advient qu'en moi tu te complaises, alors, ô désir de mon cœur, j'exploserai de joie. Le fond de la respiration suspendue, je l'ai aperçu. La lampe étincela et je réalisais le soi. La lumière a jailli au cœur de mes ténèbres. J'ai saisi le joyau du soi et je l'ai tenu fermement, laissant couler la lumière hors de moi. Comme la lune allait disparaître, j'ai chanté la folie de mon cœur tourmenté. J'ai crié « Je cherche la vérité, je cherche la réalité !» Le rubis du soi éveillé, je m'y suis absorbée. Et mon corps est devenu le réceptacle du divin. Je me suis épuisée à la recherche du soi. Qui aurait pu avoir accès à la connaissance, silencieusement lovée au creux de mon être le plus intime? Je m'y suis coulée. Et là, j'ai découvert les coupes débordantes de nectar auxquelles peu d'êtres portent leurs lèvres. Une fois le miroir de l'esprit lavé de ses cendres, avec une clarté lucide, j'ai reconnu le soi en moi. Et lorsque je l'ai vu, en ma propre demeure, j'ai su qu'il était tout et que je n'étais et désormais, où que je regarde, il n'y a que toi, l'unique, sans égal, le sauveur, c'est toi. Le toit, la porte, la fenêtre, toi, en dehors de toi, rien, excepté toi. En quelque forme que tu te révèles, rien n'est hors de toi, et toi, tu es toi. C'est toi qui m'as pris la vue qui voit double, toi qui m'as montré l'unicité, toi. Le ciel et la terre, l'ici, l'au-delà, ô toi, sans pareil, toi, tout n'est que toi. Celui qu'on désire, celui qui désire, ne sont qu'un tous deux, ils ne sont que toi. Et dans l'oraison, le but est l'orant, l'être nécessaire, tous ne sont que toi. Louange à ta gloire, gloire à ta puissance, tu es seul disciple et maître à la fois. De quel secret voile t'es-tu entouré pour qu'à ma conscience tu restes cachée?